Radio Libertaire 89.4, vous êtes avec les amis de Rouel et aujourd'hui on a comme invité Claude Guillon qui va nous parler du livre La terrorisation démocratique aux éditions Libertalia, sorti en septembre 2009.
Bien sûr, Radio Libertaire, vous écoutiez la suite de Bach numéro 1, interprétée par Rostropovitch.
Bonjour, donc vous êtes avec les amis de Rouel et aujourd'hui donc on a comme invité Claude Guillon, donc communiste libertaire et écrivain. Donc Claude Guillon qui a surtout été connu pour son livre Suicide mode d'emploi, co-rédigé avec Yves Le Boignec aux éditions Alain Moreau et qui est sorti en 1982. Donc c'est un livre qui est épuisé et qui est aussi interdit de réimpression.
J'en profite pour signaler que mon livre Le droit à la mort va ressortir à la mi-mars. C'est un livre qui raconte tout le scandale qu'avait suscité le bouquin, les procès, etc. Qui fait un peu le point sur ces questions du droit au suicide, l'euthanasie, etc.
Donc, tu as aussi écrit un livre, sûrement dont on reparlera aux amis d'Orwell, qui s'appelle « Je chante le corps critique », avec tout un chapitre sur le biopolitique et donc il est question des nanotechnologies, de la biométrie, donc qui est sorti donc aux éditions H.O. En 2006.
C'est plus récent que ça. Ça doit être 2008.
2008. Ah oui, 2008. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler plus particulièrement du livre La terrorisation démocratique, donc, qui est paru aux éditions Libertalia, qui est sorti en septembre 2009. Donc on est avec Bruno, avec Bénédicte à la technique et avec Jean-Pierre. Donc c'est un livre en fait qui parle des lois antiterroristes et aussi des liens qu'il y a avec les lois sur l'immigration et les lois sur la délinquance des jeunes. Voilà, donc comment est venu le titre, il est assez pose question, enfin peut-être tu peux nous dire pourquoi tu as choisi ce titre.
D'abord, j'avais en somme, d'une certaine façon, on peut dire que c'est un livre qui est un produit de l'état d'urgence décrété en 2005, après les émeutes de banlieue. Il y avait eu, à cette époque-là, très peu de réactions, malheureusement, dans la société française. On se souvient qu'il y avait eu donc des émeutes dans les banlieues, et le pouvoir avait testé un certain nombre de dispositifs qui sont très proches de notre sujet d'aujourd'hui, l'antiterrorisme, parce que ce sont des dispositifs d'exception. Et il les a testés, y compris là où c'était pas du tout justifié, même d'un point de vue policier. On a testé des dispositifs, des matériels, des personnels, et aussi les réactions politiques que ça a suscité, qui ont été assez faibles. Et j'ai participé à une initiative qui s'appelait l'Assemblée de Montreuil. Et dans le cadre de cette assemblée, elle s'appelait l'Assemblée de Montreuil parce qu'elle se réunissait à la Bourse du Travail de Montreuil, tout simplement. Et dans le cadre de cette Assemblée de Montreuil, j'avais rédigé une petite brochure qui s'appelait « La terrorisation du monde », où donc j'avais déjà utilisé ce qui est un néologisme en français, mais qui vient directement de l'anglais, d'un mot anglais en fait. Pour une fois que un mot nous manque en français, qu'on ne le remplace pas indûment par un mot anglais, je trouvais que c'était une bonne idée. Et donc là, c'est une commande des éditions Libertalia, ce que je souligne parce que c'est bien que les petits éditeurs fassent leur boulot de susciter des livres comme ça. Et donc c'était une espèce de mise à jour de cette petite brochure de l'époque, après l'affaire de Tarnac, qui avait mis un projecteur d'abord sur les dispositifs antiterroristes, et qui avait aussi suscité, c'est son intérêt, enfin... C'est facile à dire quand on n'était pas soi-même directement concerné en tôle. Mais l'intérêt, c'est que l'affaire de Tarnac a suscité une importante production idéologique dans les sphères du pouvoir, politique, policier. Et donc, ça permettait de confronter le dispositif antiterroriste qui datait déjà d'un petit moment. Et puis, une de ses tentatives d'application qui se faisait en pleine lumière. On pourra revenir sur le fait qu'il y en a eu d'autres dont personne ne parlait jusque-là. Donc ça, c'est sur le titre.
D'accord. Donc dans le livre, il y a toute une partie. Donc en tout cas, la période dont tu parles, c'est 1986 jusqu'à aujourd'hui. Et donc pourquoi tu commences à 1986
hein? Oui, c'est une bonne question parce qu'on aurait pu remonter. J'aurais pu remonter beaucoup plus loin. Mais 86 était une date commode pour plusieurs raisons. La principale est que c'est de là que date une modification dans la loi antiterroriste française, dans le sens d'un élargissement et d'un assouplissement de telle manière, pas assouplissement dans le sens moins autoritaire, mais dans le sens plus élastique du point de vue des politiques et des policiers. Ils se sont avisés, alors qu'il y avait des dispositifs antiterroristes qui existaient déjà à l'époque, qui dataient au moins des années 70, et on peut remonter encore beaucoup plus loin, puisque j'explique que au détour d'une note ou d'un paragraphe, que l'expression terroriser les terroristes qu'on attribue à Pasqua, était déjà utilisée dans les années 30. Donc on peut remonter très très loin. Mais 86 était intéressant parce qu'ils se sont avisés qu'il fallait introduire dans la loi une dimension qualifiée de plus subjective. Alors je vous lis le passage. L'infraction, pour être qualifiée terroriste, doit être en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement la paix publique par l'intimidation ou la terreur. On est déjà donc plus du tout dans la définition du terrorisme qui est celle du bon sens, c'est-à-dire quelqu'un qui pose une bombe quelque part, peu importe qu'on soit d'accord, qu'on pense que c'est une bonne méthode ou pas, ça c'est autre chose. Mais enfin, c'est l'image qu'on se fait quand on dit, encore maintenant, hein, quand on dit terroriste, c'est à ça qu'on pense. Dès 86 en France, on a fait en sorte que ça soit beaucoup plus souple et que ça permette des poursuites politiques beaucoup plus larges, parce que intimider, qu'est-ce que ça veut dire? On sait pas très bien. Mais justement, c'est ça l'intérêt de ce genre de texte, c'est que, dans un premier temps en tout cas, ils veulent rien dire. Après, avec les lois européennes dont on reparlera, l'idée est la même, mais le procédé est un peu différent, c'est qu'on procède par une espèce d'énumération systématique, des listes infinies de pages et de pages et de pages et de pages pour couvrir tous les délits possibles existants, qu'on connaît absolument tous, en pouvant les rattacher à une visée antiterroriste du moment qu'il y a présent, d'après les policiers, d'après les magistrats, l'intention de troubler l'ordre public.
On peut commencer par la loi de 1986. Qu'est-ce qu'elle met en place? En quoi elle est nouvelle par rapport aux lois qui existaient déjà, qui pouvaient déjà condamner les terroristes?
Alors, si tu veux, l'élément principal, c'est cette introduction d'une espèce d'élasticité dans la définition d'un élément subjectif, parce que ça permet de d'adapter la loi à la personne que tu vises, quelle qu'elle soit et quoi qu'elle ait faite. Et l'autre, ça s'est traduit par un qualificatif, une incrimination, qui est l'association de malfaiteurs en relation avec une entreprise terroriste, qu'on trouve en abrévié dans les textes sous forme d'AMT. Alors à l'époque c'était un délit, maintenant depuis c'est un crime. Et c'est ce que j'ai appelé la mise en forme pénale du procès d'intention, parce que ça permet de mettre, comme on dit vulgairement, dans le même sac des gens qui éventuellement ont très peu de choses à voir en commun, mais qui, je sais pas, se trouvent sur un carnet d'adresses, sur le même carnet d'adresses par exemple. Hein. Donc ça permet d'inventer des associations là où il n'en existe pas éventuellement, et de les qualifier de terroristes en fonction de la définition souple précédemment évoquée. Et dans la suite, en gros, si tu veux, ça serait très fastidieux de prendre ça année par année, parce qu'alors il y a 2006, puis il y en a qui c'est au niveau européen. L'étape européenne, je pense que c'est important de s'y arrêter, on va y revenir. Mais toutes les lois ont le même... présentent à peu près le même mécanisme, c'est-à-dire qu'elles aggravent sans arrêt tous les dispositifs, notamment la garde à vue. C'est pas dur, elle est toujours allongée. Alors voilà, de plus en plus. En ce moment, peut-être qu'il y a une petite contradiction, on pourra peut-être en dire un mot, mais en gros, les flics font pression pour qu'on leur donne le plus de moyens possible, le plus souple possible. Donc pour eux, c'est pouvoir garder les gens le plus longtemps possible avec le moins de contrôle possible. Évidemment. Donc la garde à vue est de plus en plus longue, les garanties de plus en plus légères et difficiles à mettre en œuvre. Par exemple, le fait que tu peux, au cours d'une garde à vue, tu peux ne rien dire. C'est un droit. Mais c'est un droit qui a d'abord été indiqué dans la loi. Et on mentionnait le fait que les flics pouvaient te le dire, puis qu'il était normal qu'ils te le disent, puis ça a disparu des textes. Ça existe toujours, mais ça n'est plus dans les textes, et les flics sont plus du tout obligés de te le dire. Donc tu vois, il y a des espèces de jeux comme ça sur les garanties dont tu disposes. Et puis la définition du terrorisme, elle peut plus s'élargir davantage aujourd'hui. Je vois pas comment elle pourrait l'être, étant donné que la liste des délits est exhaustive. Et de toute façon, ce sont les magistrats et les flics qui décident et de la qualification et des motivations. Et ça, c'est peut-être quelque chose sur quoi il faut un peu insister. C'est même assez difficile à expliquer, parce que c'est difficile de se le représenter. Disons que dans un État dit de droit, c'est-à-dire dans un système capitaliste régulé par le parlementarisme et la démocratie parlementaire, nul citoyen n'est supposé ignorer la loi. Hein, en gros, c'est ça la règle. Mais jusqu'à une période récente, il n'était pas supposé l'aimer, la loi, ou lui déclarer son adhésion. Alors évidemment, si tu te proclames anarchiste, on se doute que t'es un peu suspect aux yeux des policiers. Donc là, il y a pas vraiment de surprise. Mais on a vu dans l'affaire de Tarnac que des comportements qui ne sont absolument pas délictueux en eux-mêmes et qui aujourd'hui ne choquent absolument plus personne, même qui ne choquent plus la morale courante, vivre à plusieurs dans une grande maison sans qu'on sache très bien qui baise avec qui, tout le monde s'en fout maintenant, hein, vraiment. Eh bien, ce genre de comportements sont considérés par les flics comme des signes avant-coureurs de comportements délictueux qui viendront peut-être. Tu vois, comme c'est difficile de le dire même, tellement c'est difficile de le penser, parce que c'est délirant. Mais c'est une espèce de construction, comme ça, qui fait que quelqu'un qui ne manifeste pas chaque jour et dans tous les actes de la vie quotidienne qu'il adhère aux principes dominants, et pas seulement qui respecte la loi, parce que ça ne suffit pas, mais qui adhère à tous les principes, alors, principes vus par un policier de la direction centrale du renseignement intérieur, hein, dont on rien ne garantit que ça soit scientifique et encore moins légal, mais ça donne une espèce de valeur légale à ce qui était avant des préjugés d'épicier, hein, en gros, tu vois, c'est-à-dire qu'on transforme en élément de jugement pénal ce qui était avant la rumeur publique d'un village français des années 50. Ce qui est tout de même là une vraie régression. Et là, il y a quelque chose de qu'on pourrait qualifier, je pense, de totalitaire. Non pas au sens où on peut plus faire un pas sans être surveillé, ce qui est pas tout à fait vrai, parce que ça marche pas très bien. On va vers ça, il y a beaucoup de vidéosurveillance, des choses comme ça, c'est pas à vous que je vais l'expliquer dans cette émission, mais c'est pas tellement dans ce sens-là, c'est que on vient, et ça va d'ailleurs avec une évolution générale de la société, les flics viennent te demander des comptes sur des choses qui ne sont pas en principe du ressort de la loi. Et qui ne les regardent nullement, et pas seulement parce qu'ils ont la possibilité de perquisitionner chez toi et de fouiller dans le tiroir où tu ranges tes petites culottes, parce qu'ils sont là et que c'est une perquisition et qu'ils t'emmerdent. C'est pas seulement ça, c'est que ils peuvent te demander des comptes légalement sur des intentions, sur des opinions, sur ta façon de voir le monde, sur tes relations, sur qui tu aimes et comment, tu vois, tout ça devient des éléments à charge, alors que c'était avant, je dis uniquement, éventuellement l'objet d'une réprobation morale, mais pas un élément à charge. Aujourd'hui, oui, on voit ça dans des instructions, hein, dans l'instruction de Tarnac, on voit ça.
Mais ce qui est nouveau aujourd'hui, c'est le caractère aussi préventif, en fait. C'est-à-dire qu'on peut arrêter quelqu'un avant qu'il ait posé un acte.
C'est ce qui a été dit par les responsables policiers au moment de l'affaire de Tarnac. Ils expliquent que, oui, ce qui compte, c'est la neutralisation préventive. Et alors, tu vois, avec une espèce de fausse logique qui est, vous voulez tout de même pas qu'on attende qu'il pose des bombes. Or, le problème étant, en l'occurrence, que il n'a apparemment jamais été question que quiconque pose des bombes. Ça n'est venu à l'esprit de personne dans cette affaire. Il n'y a aucun élément du dossier qui permette de rattacher ça à une activité terroriste, ni même vraiment illégale, à part des manifestations qui, peut-être, quelquefois, tournent mal, ce qui est quand même tout à fait dérisoire. Mais, voilà, ils disent, nous, notre boulot, c'est de neutraliser les gens avant qu'ils commettent un délit. Ce qui est évidemment, c'est dans la logique de la loi, hein, ils n'ont pas tort de leur point de vue, mais ça ouvre évidemment la porte à toute espèce de dérive, puisque ça suppose qu'ils viennent emmerder des gens qui, par définition, n'ont rien fait, puisque c'est préventif.
Oui, au moment de Tarnac, il y a eu... C'est pour revenir sur 86, en fait, hein, ma question... En Tarnac, le comité de soutien avait fait un séminaire sur les lois antiterroristes, justement. Je crois que tu y étais, Amanda. C'était assez mouvementé, mais il y avait quelqu'un qui avait posé la question, qui expliquait qu'en 81, il y avait eu, 82, il y a eu la suppression de la Cour de sûreté de l'État, et qu'après, l'État, voilà, c'est supprimé, mais alors, on va donc, ce champ d'exception, on va l'État va essayer de l'introduire dans le champ pénal et de donc criminaliser toutes les formes d'opposition. Et donc, est-ce que 86, c'est pas aussi la suite de cette suppression de la Cour de sûreté de l'État? C'est la, entendant bien qu'en plus il y a Action Directe qui a repris ses activités, il y a tout un champ aussi de révolte qui est en cours parallèlement à ces lois. Et donc ça nous, est-ce que au travers de cette criminalisation de l'action politique ou radicale ou etc., est-ce qu'on n'en arrive pas aussi à un glissement petit à petit de l'État policier justement à un État totalitaire justement? Il y a plusieurs seuils qu'on peut pas non plus abstraire, c'est cette évolution de 2001, de 2005, des émeutes de banlieue, il y a tout un... Oui, je crois un historique à la fois de l'évolution de l'État et des formes de révolte.
Ce que tu évoques là, moi je le rattacherais, il y a des redistributions à l'intérieur, parce que évidemment tout ça n'est pas monolithique, il n'y a pas, même si c'est le rêve de M. Sarkozy d'incarner ça, il n'y a pas juste un petit groupe de décideurs à l'Élysée qui prennent des mesures totalement rationnelles, totalement logiques, et donc allant vers un truc totalitaire, totalement efficace. C'est pas du tout comme ça que ça se passe, parce que à l'intérieur des employés d'État, il y a des rivalités, hein, on connaît bien le thème de la guerre des polices. La création de la DCRI, par exemple, en 2008, c'est la fusion des renseignements généraux et de la DST. Et ça s'est fait, manifestement, plutôt au profit de la DST. C'est le premier directeur de la DCRI était un ancien directeur de la DST. Donc, là, les flics, les RG, ont perdu un peu de terrain. Ils peuvent avoir envie d'en regagner en lançant certaines affaires, par exemple. Tu vois. Donc il y a tout un tas de jeux de pouvoir à l'intérieur des institutions. Et tout ça se recompose, peut se modifier. Est-ce que ça change grand-chose sur le fond? Je ne crois pas. Ce qui est plus intéressant, c'est que comme tout ça se passe quand même dans un bordel assez prodigieux, notamment sur le plan législatif, ça crée des contradictions. Alors là, ouvertes, parce que les contradictions RGDST, c'est des contradictions de couloir dont on entend à peine parler. Bon. Tandis que la politique du chiffre contre les immigrés suscite le mécontentement des flics, pas seulement parce que c'est trop de boulot, mais eux, enfin. Peut-être justement parce que c'est trop de boulot pour eux, mais ce qu'ils en disent du coup, c'est ça ne sert à rien. C'est inefficace. On fait du chiffre, mais ça n'a absolument aucune efficacité du point de vue d'une délinquance. Il y a les tiraillements autour des problèmes de garde à vue en ce moment, où certains magistrats ont invalidé des procédures en disant, en utilisant une jurisprudence européenne, quelquefois ça arrive que ça puisse être utile, en disant le prévenu n'a pas eu accès à un avocat dès le début de sa garde à vue, donc toute la procédure est invalide et annulée. Donc il y a toutes sortes de tiraillements comme ça jusqu'à ces tout derniers jours. Je croyais avoir le communiqué, mais je suis pas sûr de l'avoir amené finalement. Le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat ont publié un communiqué commun, ce qui est quand même pas mal, en expliquant que ça allait plus du tout, que les lois étaient votées n'importe comment, que personne ne pouvait plus rien y comprendre, et qu'il fallait absolument changer ça, parce que si on continuait comme ça, c'était vraiment le bordel absolu. Alors, ça, ils vont rien changer, hein, et probablement ils protestent parce que surtout ils aimeraient bien qu'on fasse plus attention à leurs petites personnes et qu'on tienne davantage. J'ai retrouvé le communiqué. La loi, disent-ils aujourd'hui, est trop détaillée alors qu'elle devrait être centrée sur l'essentiel et elle devient incompréhensible. Elle est trop déclarative alors qu'elle devrait être normative et elle se dévalorise. Elles sont redondantes, voire parfois contradictoires, les dispositions de la loi. Elles sont source d'insécurité et favorisent les contentieux. Et les dernières sessions, ça vise directement Sarkozy, hein, parce qu'il a quand même été ministre de l'Intérieur avant d'être président de la République. Il a abattu un boulot législatif considérable en suscitant une foule de lois. Ils disent saturation du travail parlementaire et dégradation des conditions d'élaboration de la loi. Alors c'est dans leurs termes. Et avec leurs propres préoccupations, naturellement, ça montre quand même que c'est quand même les deux responsables du système là qui sont chargés de l'adoption des lois en France et qui disent là, en termes à peine polis, que ça va plus du tout, parce qu'il y a une accumulation. C'est un des problèmes un peu complexe et que je n'ai pas la prétention de régler, ni ce soir, ni dans mon livre, d'essayer de faire la part dans ces évolutions législatives auxquelles tu viens de faire allusion, entre ce qui est la rationalité du système, ses logiques profondes, parce qu'il en a, et ces manifestations d'irrationalité, de bordel, de on se marche sur les pieds les uns les autres, et du coup on aboutit à n'importe quoi, et on certes on pond des textes tous les six mois, mais ils sont jamais appliqués, puisque qu'il s'agisse des lois sécuritaires ou des lois sur la délinquance des jeunes, certains textes sont pris, sont adoptés par l'Assemblée avant que les décrets d'application du précédent soit publié. C'est-à-dire que on passe à un texte B alors que le texte A n'a jamais été en vigueur. Et du coup, personne ne sait ce qui se serait passé si le texte A avait été vraiment en vigueur. On n'a pas du tout eu le temps de voir ce que ça donne
dans la pratique. Et...
Voilà. Oui. De voir ce que ça donne dans la pratique, même du point de vue du système.
Hein. Mais même dans le livre, à un moment tu en parles, il y a un empilement de lois, mais les parlementaires eux-mêmes participent à ça en déposant de nombreux amendements sur chaque projet de loi. C'est encore le cas aujourd'hui là avec la LOPCI. Il y a encore tout un tas d'amendements qui sont déposés après le projet de loi.
C'est d'ailleurs une des conséquences paradoxales de ce que dénoncent le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat, c'est que comme ils n'ont plus l'initiative du tout. La seule façon qu'ils ont de se faire remarquer, c'est que quand le gouvernement balance un projet, il rajoute des amendements à mort pour essayer de se faire voir, et vous voyez. Et de toute façon, c'est des fourre-tout. Hein. Tous les textes de ce type antiterroriste, la LSQ de Jospin et maintenant l'OPCI, ces trucs, on met tout et n'importe quoi, ça concerne absolument tous les domaines, avec un esprit global qui est sécuritaire, mais qui touche à des tas de domaines extrêmement variés. Donc tout le monde peut apporter son petit amendement, et ça contribue à faire des textes qui n'ont plus aucune viabilité. C'est une espèce de trucs qui sont plombés dès le départ et dont personne ne peut plus rien faire. Sans parler du fait que, comme il le dit justement, là il parle plutôt des citoyens et des justiciables, mais les gens, les flics, les magistrats, ils n'arrivent pas à suivre. Ils sont incapables d'intégrer et d'absorber
les modifications successives.
Bien sûr. D'autant que tout ça n'est pas pensé en articulation avec les textes précédents, etc. Donc voilà.
Et tu crois pas que là, cette déclaration, c'est aussi peut-être un contre-feu, parce que 800 000 gardes à vue, le chiffre explose publiquement.
Ça, je pense que c'est surtout de l'anti-sarkozisme.
Interne, quoi, des magouilles.
Oui, je pense. Mais à cette occasion, si tu veux, pour faire de l'anti-sarkozisme, ils disent quelque chose qui est tout à fait vrai et que tout le monde sait, quoi, hein, que tout ça ne fonctionne plus en réalité, que c'est un système qui est complètement engorgé.
Pour revenir à la logique donc, des lois antiterroristes, il y a une information que je trouve intéressante qui fait partie de la logique de la loi de 1986, mais qui est aussi repris après dans les définitions du terrorisme européen, c'est le fait de récuser a priori tout caractère politique.
Eh ben oui, ça c'est le paradoxe de la définition européenne du terrorisme. Donc ça c'est l'après 11 septembre. Hein. Il n'y a pas de rapport de cause à effet, simplement le 11 septembre, les attentats du 11 septembre ont été l'occasion pour la Commission européenne de balancer des textes vivement encouragés par les États-Unis, mais des textes qu'ils avaient dans leur tiroir de toute façon.
Oui. Tu dis que le texte que tu cites date du 19 septembre, je crois donc.
Ah oui, une semaine.
Ils avaient un texte après les attentats.
Ils avaient un texte tout prêt. Oui. Absolument. Et alors dans c'est la deuxième couche, si tu veux, après la loi de 86 qu'on a évoquée tout à l'heure, avec la nuance que ça s'applique à tous les pays de l'Union européenne. Donc il y a une généralisation et une uniformisation. La définition des actes terroristes, c'est tout ce qui, en fait, c'est tous les délits qui sont commis dans le but de, ouvrez les guillemets, contraindre indûment des pouvoirs publics ou une organisation internationale à accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque. C'est-à-dire tout, n'importe quoi, Si tu manifestes devant, je ne sais pas quoi, le siège de l'ONU dans la ville, dans la capitale où tu habites, par exemple, manifestement, tu cherches à contraindre, indûment, c'est qui en décide, toujours les mêmes, tu cherches à contraindre une organisation internationale à faire telle chose ou à ne pas faire telle chose. Enfin, bon, toute espèce d'action politique ou syndicale ou associative, du moins qu'elle a une dimension sociale, peut se retrouver sous le feu de la législation européenne antiterroriste. Et cette fois par une accumulation, une énumération de tous les délits possibles. Et il suffit de leur accoler l'étiquette terroriste, ce qui est supposé effacer les motivations politiques. C'était en fait les motivations politiques sont rayées de la carte. Ça n'existe plus, sauf si le pouvoir veut bien t'accorder la faveur de considérer que d'accord, toi, tu es un militant politique. Mais si toi, tu dis, par exemple, c'est le cas des militants basques ou ça n'est pas politique. C'est purement terroriste. Et comme c'est eux qui décident ce qui est terroriste. Là, je sais pas si c'est un système totalitaire, mais c'est un système clos, en tout cas. C'est un piège dont tu ne peux pas sortir, ni en prouvant ta bonne foi, ni en disant « mais non, attendez, moi, j'ai rien à voir avec ça ». Le piège est fermé, là, définitivement.
On va écouter un petit morceau de musique, on va écouter la fanfare du Belgistan.
Radio Libertaire 89.4, vous êtes toujours avec les Amis d'Orwell et on est avec Claude Guillon à propos de son livre « La terrorisation démocratique » aux éditions Libertalia. Donc on a parlé dans un premier temps du principe des lois antiterroristes et aussi du rôle de l'Europe. On peut peut-être compléter un petit peu sur le rôle de l'Europe et aussi du mandat d'arrêt européen.
Oui, parce que j'ai oublié tout à l'heure de mentionner l'existence du mandat d'arrêt européen qui a été créé dans la foulée de la décision, on appelle ça des décisions cadres au niveau européen qui ensuite... à charge pour les États de les appliquer, de les adapter dans leur, de les intégrer dans leur propre droit. Ça a été adopté. Je regarde la date. Voilà, c'est entré en vigueur en mars 2004. Alors le mandat d'arrêt européen, pour expliquer le principe en quelques mots, c'est une reconnaissance mutuelle de la légitimité des législations. C'est-à-dire que tous les États européens reconnaissent tous les autres États européens comme des États démocratiques, et donc on n'a pas de, on peut pas dire ah oui mais en Espagne on torture ou des choses comme ça. Et donc, la conséquence pratique, c'est que n'importe quel magistrat, dans n'importe lequel des États de l'Union, je ne sais même plus combien il y en a d'ailleurs aujourd'hui.
Radio Libertaire 89.4, donc vous êtes toujours avec...
L'aire géographique concernée s'étend chaque jour, quasiment. Donc, n'importe quel magistrat, dans n'importe quel pays de l'Union, peut... ouvrir une instruction et faire arrêter directement un citoyen d'un autre pays. Alors on donne un exemple, par exemple un magistrat italien, ça c'est pas très loin, mais il y a l'exemple des manifestations de Gênes, qui ont donné lieu à toutes sortes de procédures et de répressions très sauvages. Un magistrat génois peut ouvrir une information et faire arrêter... s'il le soupçonne d'avoir participé à la manifestation et d'avoir, je sais pas quoi, lancé une pierre ou un cocktail Molotov, faire arrêter un citoyen français à Paris ou à Vannes, où tu veux, sans que la France puisse s'opposer par principe en disant « Ah mais non, c'est un citoyen français ». À partir du moment où il y a cette uniformisation et l'existence du mandat d'arrêt européen, n'importe qui peut être arrêté n'importe où sur mandat d'un juge étranger. Bon, bien entendu, comme toujours, ça a d'abord été appliqué aux militants politiques, notamment aux militants de l'ETA. C'est pour eux que on trouvait que c'était le plus utile au niveau des États, parce que ça permet de réduire énormément les recours possibles et les délais. Voilà, donc les arrestations et les expulsions se font dans des délais records maintenant. Dispositif qui a été voté par les socialistes et salué par eux comme un grand progrès de la démocratie.
Alors, de manière générale, quelles sont les cibles donc des lois antiterroristes?
Alors, on a vu... qu'elle pouvait concerner n'importe quel militant, donc ça fait déjà une cible assez large, et je pense que ça donne une idée du but qui est visé, hein, c'est de pouvoir réprimer n'importe quel mouvement social et n'importe quel militant, y compris donc d'un pays à l'autre, en passant par-dessus les frontières, parce que c'est une vieille constatation, mais les capitalistes ont toujours été beaucoup plus internationalistes finalement que les prolétaires. On en parle moins parce que on entend davantage, on fait référence à des formules, à des manifestations, à des groupements, la société internationale, mais ils ont toujours su mettre les petites, enfin toujours, c'est exagéré, souvent, ils ont su mettre les petites fiertés nationales de côté, et là, ils jouent à saut de frontière sans aucun problème, dans le même temps où on rafle des sans-papiers dans toutes les capitales des mêmes pays. Et du coup, j'ai oublié la question, voilà.
Mais c'était les cibles, en fait, parce que c'est vrai que...
Voilà. Voilà. Alors, donc, on a parlé donc des militants et des mouvements sociaux. Les deux autres cibles qui sont mentionnées, c'est aussi pour ça que la date de 86 m'a intéressé, qui sont mentionnées dans un discours d'avril 86, qui est le discours programme de Jacques Chirac. Il annonçait des mesures d'une grande fermeté, bien entendu, pour renforcer la sécurité des personnes et des biens, lutter contre le terrorisme, on est dans notre sujet, et préserver l'identité de notre communauté nationale. Alors, on sait que quand on parle de préserver l'identité nationale, on est en plein dedans, là, en ce moment, il s'agit de lutter contre l'immigration, ou en tout cas de contrôler l'immigration. Donc, on a les cibles terroristes qui se transforment en n'importe quel militant, jeunes supposés délinquants, ou déviants, d'une façon plus large, et... travailleurs immigrés, avec évidemment une catégorie qui pourrait les réunir tous, c'est les jeunes issus de l'immigration ayant une activité politique. Hein. Et c'est d'ailleurs une des cibles principales des mesures, alors là, des mesures policières au quotidien sous couvert d'antiterrorisme. Ce sont les milieux musulmans supposés proches de l'intégrisme, sans qu'on ait nous pauvres citoyens mal informés le moindre moyen de contrôle sur comment est-ce qu'on évalue ce qui est intégriste ou pas. Donc voilà, ces trois figures dangereuses, ça constitue trois figures dangereuses au sens qu'on parlait de classes dangereuses pour le 19e siècle. Les terroristes, c'est-à-dire un peu n'importe qui, les jeunes, ça fait beaucoup de monde aussi, et les étrangers, avec une cohérence entre... déjà une cohérence idéologique dans les dispositifs législatifs et aussi énormément de recoupements parce que notamment entre les lois antiterroristes et les lois anti-immigrés dans un texte sur le terrorisme, il est toujours question des immigrés, des conditions dans lesquelles on peut leur refuser la nationalité ou la leur retirer alors qu'on la leur a donnée, mais on s'aperçoit finalement qu'ils font pas de bon français, etc. Donc dans les textes même, toutes ces questions se recoupent les unes les autres et vont dans le sens c'est un mode de contrôle de la société qui vise tout ce qui bouge, en gros. Hein, c'est un petit peu comme ça ressemble aux consignes des tireurs dans un char. Hein, ils tirent sur tout ce qui bouge.
Moi, ce que je me rappelle, c'est que en 94, Pasqua, il avait fait des contrôles aux faciès pendant tout le mois d'août. Il y avait eu un quadrillage complet de Paris et tout ce qui était immigré était fouillé. Et juste après, il a fait la loi sur la vidéosurveillance. Alors, est-ce que l'immigration n'est pas au-delà du danger qu'elle représente pour l'État, entre guillemets, tel qu'elle est stigmatisée? Est-ce que c'est pas le bouc émissaire à chaque fois de l'État pour, en fait, faire une politique régressive pour tout le monde?
C'est un bon, c'est une bonne cible, si tu veux, médiatique pour plaire aux boutiquiers, aux militants du Front National, en agitant de vieilles angoisses sexuelles sur le fait que les immigrés utilisent de manière frauduleuse le mariage avec des citoyennes, surtout françaises. Donc il y a l'idée que au lieu de venir égorger nos compagnes dans nos bras, ils se glissent dans leur lit pour se faire attribuer la nationalité française. Donc il y a ça. Ça, c'est un petit peu... qu'on pourrait appeler de l'action psychologique. Je pense que concernant l'immigration, il s'agit plutôt d'un mode de gestion, hein, parce que on a besoin, je dis on, le système. Moi, j'ai pas besoin. Je m'arrange très bien pour fréquenter des gens de toutes origines. Mais le système a besoin d'immigrer dans certains secteurs de production de services. Hein, on voit bien. Tu regardes dans la cuisine d'un restaurant à Paris, le patron est blanc. En cuisine, tout le monde est ou à la peau noire ou vient du Pakistan. Ou bon, voilà, c'est une division très claire du travail. Donc on a besoin, le système a besoin de ces gens-là. Et sous forme d'une masse dans laquelle on peut puiser, donc parce qu'ils sont moins payés, parce qu'ils ont peur. Donc la terrorisation, je pense, est un mode de gestion de l'immigration comme catégorie de prolétaires, en l'occurrence plutôt sous-prolétaires. Hein. Et donc là il y a une rationalité qui est finalement un peu caché sous la politique ouvertement policière, c'est-à-dire ce que toi tu vois dans la rue, c'est les rafles, hein, et quand on peut s'y opposer, c'est bien, et elles existent, c'est une vraie politique. Mais ce qu'il y a dessous, c'est que aussi on régularise. Et pas deux ou trois, hein. Je sais plus, j'ai plus les chiffres en tête, mais enfin il y avait des régularisations importantes parce que c'est nécessaire au patron, tout simplement. Mais donc c'est un mode de gestion économique et politique de l'immigration qui permet de garder le nombre dont on a besoin dans des conditions à peu près décentes d'exploitation, on va dire. Ça, c'est le côté économique, tout en utilisant le thème général de l'immigration comme épouvantail, en disant, vous voyez, on vous protège contre les méchants arabes ou je ne sais quoi.
Mais quand même, pour tous les militants antisécuritaires, on a longtemps été habitués à se battre soit sur des... pour nous, par exemple, sur les technologies ou par rapport à toutes les lois sur l'immigration. Et il semble quand même que Tarnac a représenté un tournant, puisque pour la première fois, c'était des militants politiques qui étaient concernés. C'était une barrière.
Oui, j'ai retrouvé le chiffre pendant que tu parlais. En 2009, on a régularisé plus de 20 000 sans-papiers. Ce qui est peu par rapport au nombre qui existe, mais beaucoup pour un gouvernement qui prétend être extrêmement strict. Hein. Donc là, il y a l'idée de gestion. Alors pour revenir à ta question, oui, je pense que Tarnac a été un tournant pour la raison que tu dis. Pour une fois, ça concernait non seulement des militants politiques, mais des militants politiques jeunes, ayant reçu une éducation supérieure, blanc, disons-le tout simplement, et ayant en plus donc des contacts, on va dire des relations dans les médias, dans la presse, même si ce sont des gens qui ont une position très critique, ils ont bien raison, par rapport à la presse. On a rarement vu, peut-être jamais, il faudrait vérifier, mais j'ai pas le souvenir d'avoir lu dans Le Monde des pleines pages de tribunes libres données à des jeunes supposés islamistes parce qu'ils avaient passé un an en prison préventive et qu'on relâche ensuite parce qu'il y a non, bah non, il y avait rien, rentrez chez vous mon vieux, de quoi vous plaignez-vous. Et ça arrive souvent et ils ont pas une page dans Le Monde. Donc bon, c'est pas pour jeter la pierre ou le cocktail Molotov à Julien Coupa. C'est pour dire que c'est parce que effectivement ça concernait des gens comme lui que tout d'un coup on s'est mis à parler beaucoup de la débilité ou de la folie des lois antiterroristes.
Mais est-ce que enfin, j'ai envie de lire une phrase que j'aimerais bien que tu puisses éclaircir un petit peu. Donc, le durcissement de l'arsenal antiterroriste s'accompagne d'une répression accrue de l'immigration et de la délinquance des mineurs. Il ne s'agit pas seulement de phénomènes concomitants, traduisant un raidissement autoritaire de la société, mais bien d'une stratégie sociale cohérente. Donc, d'après toi, en fait, le but, ce n'est pas en fait d'aller vers une société plus autoritaire.
Non, je dirais plutôt que c'est la conséquence, ça, ou le moyen, si tu veux. Je parlais de forces contradictoires qui sont à l'œuvre dans une société. Il y a une de ces forces, c'est le marché, hein, tout simplement. Le sécuritaire, c'est un marché énorme. Et pardon. Les nanotechnologies, la biométrie, la vidéosurveillance, ça se développe d'autant plus que ça rapporte beaucoup d'argent. Et que ça ouvre de nouveaux marchés, des possibilités d'innovation technologique. Les nanotechnologies, c'est un secteur en pleine explosion. Donc ça, c'est pas tellement une tendance autoritaire. C'est une tendance d'un système où ce qui peut se vendre est bienvenu. Alors ça s'articule effectivement, comme j'ai dit tout à l'heure, avec des angoisses, l'utilisation de réflexes comme ça, racistes, xénophobes. Ça, c'est incontestable. Je pense que c'est plutôt globalement un nouveau mode de gestion de nos sociétés, c'est-à-dire des sociétés capitalistes, démocratiques, avancées, supposait-elle, mais vers quoi ? Toute la question est là. Un nouveau mode de gestion qui utilise ce qui avant était du ressort de l'exception. Dire, bah là, c'est une situation historique tout à fait particulière, donc on a le droit de prendre des mesures exorbitantes du droit commun. L'exception devient la règle. Je pense que ça, c'est une tendance lourde de nos sociétés, mais le but n'est pas tellement de... je vais te dire, personne n'a envie de se taper le visionnage de toutes les bandes de vidéosurveillance qu'on tourne, et personne ne le fera jamais. C'est bien clair. Personne ne prendra jamais la peine de faire ça parce que c'est extrêmement ennuyeux et on pourra rien en faire. Par contre, on le mettra en place parce que ça permet de les vendre, parce que ça permet de rassurer le citoyen, de remporter des élections. Et si à l'occasion ça permet d'arrêter des sans-papiers ou des militants politiques, bien sûr, on ne s'en privera pas.
Mais en fait, bon, les lois antiterroristes se sont mis en place, on va dire, avec le 11 septembre, mais elles étaient déjà préparées, comme on l'a vu tout à l'heure. Donc, pourquoi tout cet arsenal ? C'est pas que dans un, enfin, effectivement, le fait de mettre en place des lois antiterroristes, enfin, il y a un phénomène d'accentuation des nouvelles technologies de surveillance qui produit un marché. Mais avant de produire ce marché juteux, enfin.
Il est très possible que des responsables politiques soient intimement convaincus. Le problème, c'est que ça ne change rien et ça n'a pas grand intérêt des mesures antiterroristes du type de celles qui sont adoptées dans les pays européens sont les bienvenues et sont des protections nécessaires contre des séries d'attentats qui se sont produits réellement. Tu vois, ma thèse n'est pas qu'on il arrive que l'État pratique le terrorisme et il arrive qu'il invente du terrorisme là où il n'y en a pas. Mais ma thèse n'est pas que tous les actes terroristes ont toujours été inventés. Ça, c'est une théorie un peu complotiste que je partage pas du tout. Il y a des fanatiques, il y a des militants politiques qui pensent que le meurtre est un bon moyen d'imposer effectivement la terreur et de faire connaître leurs idées de cette manière. Et quand ça se produit, et évidemment ça se produit toujours dans les grandes villes, parce que c'est plus spectaculaire, hein. On va pas faire poser des bombes au fond des campagnes. Et quand tu as sur le trottoir de la rue de Rennes des gens avec la jambe arrachée, une main à droite, un pied à gauche, c'est extrêmement difficile de dire en fait il se passe rien et toutes les mesures qui vont être prises, ça a été le piège auquel la gauche s'est laissé prendre d'ailleurs.
Mais tu ne crois pas que tu parles de gestion et tu ne crois pas que c'est aussi l'État qui maintenant veut tout prévoir, quoi. C'est-à-dire ce qu'on appelle la prévention, qui est propre d'ailleurs aussi bien à la gauche qu'à la droite. C'est une sorte d'idéologie très. On veut tout prévoir. Donc c'est,
oui, ça fait partie, je pense, de cette nouvelle, de ce nouveau management. au niveau des États, que tu retrouves aussi dans les entreprises. Hein. C'est les mêmes folies, les guerres avec zéro mort, les productions avec zéro défaut. C'est un peu les mêmes modes de pensée et de gestion des personnes qui sont appliquées à toutes les échelles.
Là, il y avait aussi une phrase que je trouvais intéressante, dont tu parles au début de ton livre. Donc, l'islam se révélera un substitut providentiel au stalinisme d'État comme repoussoir des démocraties. Donc, il y a aussi.
Et oui, parce que avant 89, il n'y a pas très très longtemps en fait, le réservoir et le centre de commandement supposé du terrorisme international, c'était l'Est, c'était les pays dits communistes. À partir du moment où ce repoussoir, donc, pour les démocraties qui jouent un rôle très important, c'est-à-dire, quoi, vous voulez les chars, vous voulez le goulag, vous voulez, c'est ça que vous voulez. Voilà. On peut plus dire ça, il n'y en a plus. Là. En tout cas, là. Bon, la Chine résiste encore un petit peu, tout en faisant une espèce de capitalisme autoritaire. Bon. Mais donc, il faut trouver effectivement un substitut. Et là, je pense que l'islam radical, ou les islamistes, je ne sais pas comment les appeler, se sont précipités dans la brèche et du coup, servent beaucoup les politiques occidentales. Parce que le repoussoir, maintenant, c'est Ben Laden et c'est plus le fantôme de Staline.
Un dernier mot peut-être sur les démocrates critiques. Tu en parles longuement dans ton livre et c'est vrai que là on n'aura pas trop le temps de développer, mais ce que tu notes en tout cas, c'est que les critiques vis-à-vis donc de ces lois antiterroristes sont de plus en plus faibles.
Oui, j'ai fait une courte allusion là en parlant de l'attitude de la gauche, en prenant 86 comme point de repère, ce que j'ai fait dans mon livre, on s'aperçoit effectivement que l'opposition de la gauche, c'est d'abord la gauche politique. C'est pas opposé, ou rarement. Alors, tantôt ils s'abstiennent pas, tantôt le PC vote contre, mais le PS vote pour. En gros, la gauche est co-responsable de tout le dispositif antiterroriste aujourd'hui en France. On peut pas dire qu'elle a constitué une opposition. Donc, l'opposition s'est cantonnée dans le secteur associatif, où se retrouvent un certain nombre de militants de gauche, mais leur action s'est réduite à une protestation morale qui est très désarmée, puisque les partis auxquels ils sont plus ou moins rattachés ont eux-mêmes participé à l'élaboration du dispositif antiterroriste. Donc ils disent, là, on va un peu trop loin, là, il y a un dérapage, là, il y a une conséquence fâcheuse, et ils ne peuvent s'opposer à rien.
Je dirais que en mot de la fin, on peut citer ton site claudeguillon.internetdown.org où on trouve une mine d'informations, où tu écris un peu sur tout ce qui se passe autour de l'actualité.
Oui, je publie le contenu de livres épuisés ou des textes d'humeur sur des sujets d'actualité, effectivement.
Merci Claude Guillon.
Merci à vous.
Et on se quitte avec Jacques Higelin.
La mort est toujours là, je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais babe, la mort est le berceau de la vie. Laisse-moi te rouler une galoche, la santé de l'amour fou, pour compenser toutes ces taloches que la vie a filées à mon papa. Garde le feeling au bout des doigts, au bout des seins, au creux des hanches, et laisse-le monter sur mes planches, surtout ne le retiens pas. Loin des nostalgies résignées, savoir ta grâce et ta beauté, digne et jolie, digne et jolie, s'éclater sur le bois de mes planches, frapper du pied, claquer des doigts, chanter la folie, la jouissance, l'amour de la vie, digne et jolie, jusqu'à ce que mon cœur flambe. Je bébé, la mort est toujours proche, j'ai les trous plein les poches, et le cerveau qui résonne comme une vieille cloche, fêléo. Bébé, bébé, la mort est toujours proche, la mort est toujours là. Je comprends pas ce qu'on me reproche, ni qui je suis, ni ce que je fous là, mais bébé.